et que Dieu puisse nous bénir. Ce matin, nous lisons à nouveau le texte d'Ésaïe, chapitre 7, que Samy nous a lu, à partir du verset 10, qui nous parle effectivement de la naissance de Jésus-Christ. Où Ésaïe a écrit pas mal de chapitres sur cette naissance. Combien que eux aussi, Michel, combien que ces hommes-là ont donné beaucoup d'importance à la venue de cet homme, de ce Messie. Et nous aussi, nous devrions certainement nous pencher là-dessus aussi. Pour reconnaître que dans l'histoire, il y a eu un homme qui a bouleversé le monde. Ésaïe, le chapitre 7 et à partir du verset 10, qui nous dit que l'Éternel parla à nouveau à Achaz et lui dit : demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans la région d'en bas, soit dans les lieux élevés. J'ai oublié de dire que je lis dans la version Semeur. Certainement, c'est pour ça que vous savez. Mais Achaz dit : je n'en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. Ésaïe dit alors : écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser ainsi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais qu'il y ait eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Nous nous trouvons 731 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, le peuple juif était un peuple uni. Mais à partir de ...931 avant Jésus-Christ, le peuple s'est divisé en deux. D'un côté deux tribus et de l'autre côté deux tribus. Et chaque de ces parties avait leur propre roi, leur propre gouvernement. Et dirigeait le peuple selon à la manière qu'il voulait. Comme nous voyons aujourd'hui avec les Catalans et l'Espagne. C'est la même chose. Donc, voilà que Achaz est le roi. Et le roi de Juda. Nous n'avons pas pris le temps de lire au chapitre à partir du verset 1er jusqu'à 9. Mais qui fait que les Assyriens, que s'il faut que nous cagions ce peuple aujourd'hui, nous dirons que c'est l'Irak actuel. Était à l'époque un peuple puissant, dominateur, et qui ravageait tout sur son passage. Et ce peuple avait l'intention de conquérir Israël. Alors le roi du royaume du Nord s'est allié à la Syrie, fait coalition avec la Syrie pour pouvoir contrer ce peuple-là. Mais maintenant, ces deux rois qui se sont alliés viennent vers Achaz, le roi de Juda, et lui disent, voilà, fais coalition avec nous, parce que ces Assyriens sont un peuple puissant, et à deux, on ne pourra pas résister. Viens avec nous comme ça, on sera assez fort pour voir le terrasse. Mais Achaz a refusé. Il a dit non, je ne m'allie pas avec vous. Pourquoi? Parce que Achaz, lui, il veut s'allier plutôt avec les Assyriens. Pourquoi? Parce que c'est un peuple puissant. Il se dit que si je me cache vers ce peuple-là, ben je serai à l'abri. Ah, c'est alors que la Syrie et le peuple d'Israël du Nord veulent faire la guerre à Achaz. Pourquoi? Pour le détrôner et le remplacer par un homme à eux qui a la même politique. Alors, Achaz, en voyant cela, a pris peur. C'est à ce moment-là que Esaïe, lui, il vient et il rentre en scène. Il va d'abord exhorter Achaz et lui dire que voilà, ben, mets ta confiance en Dieu. À partir du verset 4, nous le voyons qui dit que tu lui diras, écoute-moi, garde ton cœur. N'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tissons fumants, devant la fureur de Rétin, le roi d'Israël du Nord, et de son pays, et aussi de la Syrie et du fils de Ramu-Liabou, le roi de Syrie. C'est à ce moment-là que Esaïe demande à Achaz, mais demande à Dieu aussi. Mais Achaz, lui, dira que moi, je ne veux pas de signe. Je ne veux pas demander à Dieu le signe. C'est à ce moment-là que, au chapitre 10, que nous voyons que Esaïe, qui nous dit que Esaïe parle à nouveau à Achaz. Ce qui veut dire que la première fois, Dieu attendait une réponse de la part d'Achaz. Et le fait que Dieu revient à nouveau nous fait comprendre que deux choses. Soit Achaz, que lui, il a gardé le silence, ou s'il a parlé, il n'a pas été convaincant. Mais le fait que l'Éternel parle à nouveau révèle son amour, sa compassion, sa bonté, car Achaz n'avait rien d'extraordinaire pour pousser l'Éternel à le secourir. De même que Dieu nous a parlé le premier, nous n'avons rien en nous qui pourrait pousser l'Éternel à nous sauver, mais il a fait par amour, par compassion. Mais il est plus probable que si l'Éternel parle à nouveau, c'est que Achaz, lui, il a préféré garder le silence. Car au verset 12, Achaz dira que voilà, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Donc on peut conclure qu'il a gardé le silence lorsqu'Isaïe lui propose de demander un signe. Mais lorsque Isaïe demande à Achaz de donner un signe, c'est pour le pousser à décider, à se dévoiler. En citant le verset 12, que nous pouvons lire, mais Achaz dit, je ne demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. Mais au fait, Achaz, lui, il va citer le Deutéronome chapitre 6, le verset 16, qui nous dit que vous ne tenterez plus l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. En citant la parole, Achaz cherche à déguiser ses sentiments. Il cherche à tromper Isaïe, même vouloir tromper Dieu. Accepter le signe serait en fait accepter de changer de politique. Et ce roi n'avait nullement l'intention de le faire. Accepter le signe serait de revenir à Dieu, de lui faire confiance, d'attendre le secours du Seigneur et de lui obéir. Et comme il n'avait pas l'intention d'obéir à Dieu, il a préféré se détourner et dire voilà que, en toute humilité masquée, dit voilà, mais je préfère ne rien demander à Dieu. Vous savez que Achaz n'est pas le seul à être comme ça. Vous savez que le fait que nous ne voulions pas nous engager quelquefois dans nos églises, c'est une manière de vouloir fuir la présence de Dieu. Lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, nous devrions aussi nous approcher de lui. Nous devrions aussi délaisser nos vieilles habitudes. Nous avons beaucoup de choses à délaisser pour le servir, car nous ne pouvons pas servir le Seigneur et aussi être dans le monde. Jésus disait qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Mais devant ce refus d'Achaz, le Seigneur annonce qu'il va quand même se produire un signe, un miracle. Et il indique même la nature de ce signe. La Vierge sera enceinte. La nature du signe, dans le contexte, précise qu'il s'agit d'un signe prodigieux, miraculeux. La forme du verset 14 rappelle l'annonce faite à plusieurs femmes stériles dans la Bible qu'elles ont enfanté comme par exemple Anne, la mère de Samson, qui malgré leur stérilité ont pu enfanter. Nous pouvons reconnaître là qu'il y a un signe prodigieux, un signe miraculeux. Mais pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'il y ait rapport. Mais d'aujourd'hui, que la science a évolué et que nous voyons que cela commence à être autrement. Mais l'idée montre que dans l'un comme dans l'autre cas, il y a traçabilité de l'homme. Le signe annoncé par Isaïe suggère une intervention spéciale du Seigneur. Et le prophète nous invite à penser à un miracle. Il y a une question qui surgit. Le signe est une promesse ou une menace ? Pour ceux qui voient que c'est une promesse appuyée sur le verset 16 du chapitre 7 d'Ésaïe, qui nous dira que voilà, mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. Et pour ceux qui voient une menace, s'appuie sur le verset 12, qui nous dit, toujours à notre chapitre 7, qui nous dit que mais Achaz dit, je ne demanderai pas, je n'en veux pas forcer les mains de l'Éternel. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, sachez que ce signe-là est un danger pour vous. Car Jean 3 et le verset 18 nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Sachez que soit une promesse, soit une menace. Est-elle pour vous une promesse? Ceci est-il pour vous une promesse ou une menace? Ésaïe va enfin ensuite souligner le nom de l'enfant. Il s'appellera Emmanuel. Nous savons tous ce que signifie Emmanuel, Dieu avec nous. Mais dans la prophétie d'Ésaïe, que veut dire ce nom? Il semble qu'il va falloir causer un peu plus pour comprendre ce que veut dire ce nom. Comme nous l'avons déjà dit, et je le dis souvent lorsque nous sommes à pour lui, nous avons déjà l'appel et il faudrait qu'on comprenne la pioche. Au chapitre 5 et du verset 1 à 7, Israël a été comparé à une vigne dont le Seigneur n'a pris soin. Mais à un certain moment, le Seigneur a attendu que sa vigne lui apporte de bons fruits, mais ça a été le contraire. Alors qu'il a décidé de raser cette vigne. Et laisser la terre en friche. Mais lorsqu'on laisse une terre en friche, c'est bien pour la retravailler à nouveau et replanter. Mais le Seigneur n'a nullement l'intention de replanter sur cette terre l'ancienne vigne. Mais il prendra un nouveau plan. C'est pour cela que, en Jean chapitre 15, le verset 1er, Jésus nous dira que je suis le cep, le vrai cep, et mon Père en est le vigneron. Donc, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 5, nous reconnaissons que le nouveau cep, la nouvelle vigne, c'est bien le Christ. Et il dira que, en Jean chapitre 5, je ne suis pas venu chercher ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Certainement pour contredire ces rois de l'époque, ou même les dirigeants de son époque, que vous faites les choses à votre tête, comme vous voulez. C'est pour cela que le pays est dans cette situation-là. C'est pour cela que vous êtes dans cette situation-là, mais moi, je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc, si nous voulons que la volonté de Dieu soit dans notre cœur, nous avons à nous confier en Christ et faire sa volonté, et non faire notre volonté, notre propre volonté à nous. La chose suivante, c'est que Ésaïe va nous apprendre de quel aliment sera nourri cet enfant-là, de crème et de miel. La crème et le miel montrent premièrement que l'enfant naîtra. C'est un humain. Il évoluera au sein d'une famille, au milieu d'un peuple. La crème et le miel montrent deuxièmement que c'est un aliment de base, une diète, conséquence de la dévastation du pays, comme nous l'avons vu au chapitre 5, que le Seigneur va balayer son peuple. Ainsi, les manuels que Ésaïe annonce va connaître dès son début de son existence avec son peuple des temps difficiles, de pauvreté et d'humiliation. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien, la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quel âge le prophète vise. On a certainement pensé à 12 ans, lorsque Jésus a dit que moi, je préfère choisir la maison de mon Père. Mais le livre des Nombres et de Deutéronome nous apprend que ceux qui ont 20 ans et plus ont péri dans le désert. Et c'est à partir aussi de 20 ans que l'on portait les armes. Donc, ceux qui ont moins de 20 ans sont considérés comme des enfants. Même si vous avez 18 ans, vous êtes encore des enfants. Même si vous dites que je suis majeur, vous êtes encore des jeunes, des enfants. Même si vous avez 19 ans, vous êtes encore des enfants. Vous devriez obéir à maman et à papa. De ne pas claquer la porte de la chambre et puis dire que tu n'as pas le droit de rentrer. Donc, ce qui montre que vous devriez continuer, vous jeunes, à respecter vos parents. Comme Paul le disait, obéissez à vos parents. C'est une promesse. Et vous aurez une longue vie. Mais en nous regardant tous, nous sommes des enfants du Seigneur. Donc nous avons à obéir au Seigneur. Et ainsi, nous connaîtrons des temps bons. Nous pouvons conclure en disant que cette partie-là, en disant que le prophète, lui, il vise l'âge adulte. À partir de 20 ans, l'enfant pourra exercer la royauté. L'enfant et le pays connaîtront des temps difficiles jusqu'à ce que Emmanuel ait atteint l'âge de régner. Rejeter le mal et choisir le bien différencie Emmanuel du peuple d'Israël à l'époque des alliés. Ce qui veut dire qu'il est apte à prendre le pouvoir parce qu'il est le nouvel Israël. Ésaïe nous pose la question maintenant, mais quand viendra ceci? Ésaïe ne le dit pas. Mais une chose qu'il dit, que lorsque cette femme sera enceinte, cette vieille sera enceinte, l'importance pour nous, c'est de ne pas savoir que si c'est en décembre, si c'est en mars. L'importance pour nous, c'est de savoir que un sauveur est venu dans le monde. Mais ce signe n'est pas pour Achaz, parce que lui, il a refusé. Ce signe n'est pas pour vous aussi qui refusez la grâce du Seigneur, parce que vous n'acceptez pas le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais ce signe, Esaïe le prédit que c'est pour la dynastie de David. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis à David que ton trône ne sera jamais au feu. Voilà pourquoi que ce signe reste une menace pour Achaz qui a refusé de faire confiance à Dieu. Et lorsque nous refusons de faire confiance à Dieu, les manuels restent pour nous une menace, car nous ne croyons pas. Le manuel qui veut dire que Dieu est avec nous est une promesse pour ceux qui croient. Emmanuel est une menace aussi pour ceux qui refusent de croire. Corinthiens nous dira au chapitre 2 Corinthiens chapitre 15, au chapitre 2 Corinthiens chapitre 2, pardon, au verset 15 et 16, nous dit: nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et aussi parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Mais pour que nous soyons un parfum pour Dieu, il va falloir que nous vivions en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour lorsque ceux qui nous regardent voient au moins que celui-là, il est tout à fait différent. Nous entendons souvent que, je ne sais pas chez vous, mais souvent nous entendons chez nous, là, mais il est comme nous. Il est comme nous. L'Évangile souligne le caractère miraculeux de la naissance de Christ. Dans l'Évangile, Matthieu souligne que l'ange a annoncé à Joseph que l'enfant que porte Marie vient de cet esprit. Et dans l'Évangile de Luc, il souligne que ce sont les anges c'est l'ange du Seigneur qui a annoncé au berger cette naissance miraculeuse. Ceux qui ont cru à cette parole annoncée par Esaïe ont vu l'accomplissement du prophète. Ils ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie, comme nous l'avons vu le vieux Siméon. Emmanuel, Dieu est avec nous, participera à la souffrance de son peuple. La crème et le miel montrent que l'enfant souffrira, connaîtra la souffrance. Dès le berceau, il naîtra dans la pauvreté, dans une étape de Bethléem, et connaîtra l'humiliation suprême, l'infamie de la croix. Le Messie devra aussi apprendre par la souffrance, devra apprendre l'obéissance par la souffrance avant de recevoir le règne. Mais la question que nous pouvons nous poser ce matin, mais que représente Emmanuel pour nous? Nous avons vu que Emmanuel, nous avons décrit que souffre avec son peuple, car le peuple a connu des temps difficiles. Emmanuel pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus est là pour nous secourir dans toutes nos difficultés. Il ne nous abandonne pas, il vit avec nous, il vit ce que nous vivons. C'est pour cela que Et vous, il nous dira qu'il est capable de nous délivrer de toutes choses parce que lui, il a aussi vécu ce que nous vivons. Il y a déjà près de 2 mois que j'ai vécu, j'avais un dossier à remplir, mais énorme. Mais j'étais tellement angoissé parce que je n'arrivais pas au bout de ces choses. Et pourtant que tous les documents étaient là, mais il a fallu que je cherche, que je fouille. Et c'est pas moi qui les ai placés, donc il a fallu que je trouve où se trouve toute cette paperasse. À un certain moment, j'ai été vraiment dépassé, inquiet. Et je dis, Seigneur, me voilà devant une situation que je ne maîtrise pas. Que fais-tu pour moi? Et la date butoir a été de 3 jours. Puis, un matin, samedi matin, j'ouvre la Bible avec les enfants, nous faisons le culte familial, et puis nous tombons sur le verset de Thessaloniciens qui dit que ne vous inquiétez de rien, Dieu prendra soin de toutes choses. Je dis, Seigneur, merci. J'arrête de m'inquiéter. Tu m'as donné la réponse. Mais une chose que j'ai remarquée, le dossier n'était toujours pas rempli. Mais il me dit de lui faire confiance. Et c'est ça quelquefois que lorsque nous sommes dans de telles situations, nous disons, Seigneur, viens m'aider. Et les promesses du Seigneur sont là. Nous lisons ces promesses-là. Mais lorsque nous nous tournons, nous voyons encore les difficultés sont là. Combien de fois que nous baissons les bras. Mais lorsque nous lisons ces promesses-là, cela ne veut pas dire que les difficultés vont s'effacer. Tout comme Emmanuel a été avec son peuple dans la souffrance, il a été jusqu'au bout. Lui aussi, il va jusqu'au bout avec nous, jusqu'à ce que nous soyons délivrés. Mais à la différence, c'est de remettre nos inquiétudes dans les mains du Seigneur. Voilà ce que cela veut dire que Emmanuel est avec nous. Que Dieu est présent avec nous. Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, comme dit Matthieu chapitre 11, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Prenez sur vous mon fardeau qui est doux et léger et humble de cœur. Voilà la promesse que Dieu nous fait à travers la naissance de Christ. Qu'il est là à nous soutenir de nos difficultés. Vous jeunes, certainement que vous vous posez la question, mais que ferais-je après mes études? Comment choisir celui ou celle avec qui je partagerai ma vie? Mais sachez une chose, que si véritablement que vous faites confiance à Emmanuel, Dieu est avec nous, il vous guidera en toutes choses. Mais vous, parents, vous qui êtes inquiets pour vos enfants, faites confiance au Seigneur. Dieu est avec nous. Je crois que cette période de Noël nous rappelle comment que cette bonté du Seigneur est faite pour nous. Parce que Dieu nous a donné un sauveur. Un sauveur non pas seulement qui pourvoira à nos besoins spirituels seulement, mais aussi à nos besoins matériels. Lui, il sait toutes choses. Il sait à quel moment nous donner toutes choses. La seule chose qu'il nous demande, de croire en ce signe qu'il nous a donné. Achaz, lui, il a préféré refuser. Je ne veux pas demander à Dieu un tel signe. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas changé. Il ne voulait pas s'approcher de Dieu parce qu'il voulait rester à vivre tel qu'il est, loin de la présence de Dieu, à vouloir s'appuyer sur les hommes. Nous avons tendance des fois à regarder ce qui est autour de nous. Mais je crois que Emmanuel est avec nous. C'est un cadeau parfait que Dieu nous donne pour nous rassurer, pour nous permettre encore de continuer et de lui faire confiance. L'histoire nous raconte que, effectivement, qu'un sauveur est né au milieu, sur la terre. Le monde entier le dit. Donc, la Bible nous donne des promesses. Saisissons ces promesses que l'Éternel nous donne et continuons à vivre par la foi. Que Dieu puisse nous bénir.
Amen. Amen.